Augmentation du nombre de personnes infectées par la COVID. Alors, le chiffre d'aujourd'hui, là, c'est 187. Donc, 187 nouveaux cas. Et là, je vous ramène à une déclaration du ministre de la Santé la semaine passée, Christian Dubé, qui disait qu'il fallait pas dépasser 160 cas parce que là, on rentrait dans une zone, je dirais, de risque. On l'écoute.
Pour nous, une courbe aplatie, c'est à peu près 20 cas par million d'habitants. Puis on ne veut pas aller au-dessus de 20. Alors, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si on est à 80 cas, ben il ne faudrait pas aller trop loin lorsqu'on se rapproche de 160. Tant qu'on réussit à garder la transmission en bas de 20 cas par million, on va pouvoir continuer à avoir le genre de vie qu'on a. C'est pas parfait, c'est notre nouvelle réalité.
Alors là, on le dépense, le 20 cas par million, on dépense les 160 cas. On va aller rejoindre Gaston Deserre. Gaston Deserre, il est médecin épidémiologiste à l'Institut national de santé publique du Québec. Bonjour, docteur Deserre.
Bonjour, M. Drainville.
Êtes-vous inquiet?
Ben, je pense que clairement, je dirais le mois de juillet a marqué un moment où c'était vraiment un nombre de cas minimal. Puis depuis ce temps-là, ça a remonté. Puis dans les dernières semaines, ça continue à remonter. Alors, je pense que clairement, il y a de l'inquiétude à avoir, là, comme de quoi la transmission reste pas stable. Elle semble commencer à progresser et je pense que M. Dubé a raison. Si on reste à moins de 20 par million d'individus, on est capable de gérer ça. Si on augmente à beaucoup plus que ça, évidemment, ça va devenir compliqué. Puis là, peut-être que le ministre va devoir changer des stratégies. Et évidemment, c'est pas ce qu'on souhaite là, si on veut pouvoir fonctionner le plus librement possible.
Bon, si on regarde l'évolution des cas dans la dernière semaine, là, on était à 98 le 27 août dernier. On est passé à 120 le 29 août. On est passé à 122 le 31 août. On est passé à 132, ça c'était mardi. Et là, hier, on était donc à 187. Donc, il y a vraiment une tendance à la hausse. Est-ce que vous croyez que c'est lié à la rentrée scolaire?
Pour le moment, je penserais pas. C'est-à-dire que c'est certainement, évidemment, un des éléments clés là qu'on surveille.
Parce qu'il y a eu des éclosions. Il y a eu des éclosions dans plusieurs écoles. Là.
Ben, en fait, il y a eu surtout des gens qui sont arrivés à l'école infectés. Et je pense que c'est ça qui est probablement la chose importante. C'est-à-dire que quand on parle du système scolaire, là, on parle tout le personnel, on parle de presque 2 millions de personnes, c'est quand même beaucoup de monde, là. Que certaines de ces personnes-là se fassent infecter par leur vie à l'extérieur de l'école et arrivent à l'école infectées, c'est pas une surprise. Maintenant, ce qui est important, c'est que la personne infectée qui arrive à l'école, si jamais elle le transmet, puis que c'est limité au groupe classe, là, à la bulle classe, évidemment, dès qu'on identifie quelqu'un, on retire non seulement cette personne-là, mais on va aussi mettre en quarantaine les gens avec qui cette personne-là étudie pour s'assurer que la transmission au sein de l'école va pas plus loin.
D'accord.
Donc, je pense que actuellement, d'avoir des cas dans les écoles, c'est une chose. D'avoir de la transmission dans les écoles qui prennent une grande ampleur, c'est une autre chose. Puis c'est ce deuxième versant-là qui, actuellement, en tout cas, est à peu près pas présent.
Et contenu. Oui, c'est ça. C'est ça. Alors, quand on regarde l'évolution des cas, là, au cours des 7 derniers jours, là, il y a une augmentation à chaque jour. Est-ce que ça vous amène à vous dire « ouais » Il va falloir se poser sérieusement la question si c'est une bonne idée de permettre aux enfants de courir l'Halloween.
Ben, je pense que la question de l'Halloween, c'est une question pour laquelle il n'y a pas de décisions qui sont encore prises, mais clairement, actuellement, on dit aux gens de minimiser les contacts les uns avec les autres pour réduire les risques de transmission. L'Halloween, par définition, on va voir beaucoup de monde et donc est-ce que ça devra être une activité à réévaluer? C'est bien possible. Puis évidemment, plus le nombre de cas dans la communauté va être grand, plus passé l'Halloween va devenir problématique. Alors, à ce niveau-là, c'est certain que l'évolution qui va se produire dans la population générale pourrait avoir des incidences au niveau d'une activité comme celle-là. Mais évidemment, je pense que actuellement, les grandes préoccupations, c'est de s'assurer que les gens puissent continuer à travailler avec pas de transmission, à aller à l'école avec peu de transmission. L'Halloween, évidemment, c'est une activité un peu festive, mais c'est certainement pas, je dirais, un des éléments clés là, de notre vie sociale et économique. Là.
Mais pour les enfants, docteur Dessin, oh boy!
C'est pas agréable.
Pour beaucoup d'enfants, c'est une fête plus importante maintenant que toutes les fêtes de l'année. Là.
Puis, encore une fois, je veux pas minimiser le plaisir que les enfants ont à l'Halloween, mais c'est certain que, je dirais, les paramètres avec lesquels le ministère puis le gouvernement va décider qu'est-ce qui devra être fait pour l'Halloween vont dépendre en bonne partie de la situation épidémiologique qui va prévaloir
à ce moment-là,
fin d'octobre.
La fin d'octobre, vous avez raison. OK. Quand on regarde là ce qui se passe présentement dans la région de Québec, OK? Oui. Parce que là, on voit une augmentation des cas, nombre d'éclosions en hausse. Je veux dire, on peut, je pense, dire que l'épicentre de la pandémie s'est déplacé vers Québec là, au cours des derniers jours.
Oui.
On peut pas dire ça? Parce que je l'ai lu, en tout cas.
Oui, effectivement. Moi aussi, j'ai lu la même chose. Et je pense que dans la région de Québec, il y a eu un événement qui a eu des conséquences très importantes. Donc
le karaoké, le fameux karaoké.
En fait, le bar dans lequel il y avait du karaoké. Ouais. Maintenant, quelle a été la transmission due au karaoké ou aux autres contacts quand les gens étaient dans le bar, se promenaient dans le bar? Ça, évidemment, on sera jamais capable de pouvoir différencier. Mais c'est sûr que cet événement-là, cette soirée-là où il y aurait au moins une quarantaine d'individus qui ont été infectés, évidemment, ça augmente considérablement le nombre de cas dans la région de la capitale nationale. Ceci étant dit, est-ce que ça représente ce qui se passe de façon régulière dans la région de Québec? Non. Maintenant, c'est sûr que là, ces personnes-là ont elles-mêmes infecté des membres de leur famille ou peut-être d'autres personnes et les conséquences de cet événement-là, on va continuer à les voir là, au cours des prochains jours. Donc, est-ce que ça, les interventions pour identifier les contacts, les mettre en quarantaine, vont réussir à juguler la transmission liée à cet événement-là? C'est ce qu'on peut espérer. Mais c'est clair que ça nous montre que la COVID, c'est très transmissible. Et évidemment, dès qu'on relâche les mesures, qu'on s'agglutine les uns proches des autres, ce virus-là, lui, il en profite pour se transmettre.
Est-ce que le temps est venu d'évaluer la possibilité de confiner par région plutôt que d'envisager du mur à mur là, les mêmes mesures partout au Québec? Là. Est-ce que c'est pas une des leçons ça, du printemps passé de dire ben là, si t'as une région, c'est plus problématique, occupe-toi de la région, mais t'as pas à, mettons, à pénaliser entre guillemets tout le reste du Québec?
Je pense que c'est certainement une approche qui a de grands avantages. C'est sûr que si on voit une absence de cas dans la région de Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine, d'appliquer un remède qui viserait à diminuer la transmission, par exemple, dans la région de la capitale nationale, c'est un peu difficile à justifier. Donc, et de toute façon, je pense qu'actuellement, ce qui est recherché, c'est de maximiser ce qu'on peut faire au niveau de notre travail, au niveau des études, mais en maintenant un niveau de transmission qui soit, je dirais, le plus bas possible. Et d'appliquer un remède mur à mur, c'est sûr que c'est dévastateur, là. Donc, je pense que les autorités gouvernementales regardent ça en essayant de minimiser les impacts négatifs tout en maximisant les impacts positifs des interventions. Donc, une approche régionale a certainement cet avantage-là.
Très bien. Ben, écoutez, on va espérer que cette augmentation des cas qu'on a vu n'est que temporaire, puis on va recommencer à baisser. Enfin, croisons-nous les doigts, puis restons extrêmement vigilants, continuons à respecter les consignes. C'est ce qu'on a sous notre contrôle. Je veux dire, il y a un bout qui nous appartient, puis il y a un bout qu'on contrôle pas. Gaston Dessert, médecin épidémiologiste à l'Institut national de santé publique du Québec. Merci beaucoup.
Merci à vous. Bonne journée.